Bonjour, je suis Shiva Shafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéros, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par pair.
Bonjour Laure et merci d'avoir accepté de témoigner dans notre podcast Parents Héros. Alors lorsque nous t'avons contacté pour te proposer de témoigner, tu as cru que c'était grâce ou finalement à cause de ton mari Guillaume Aldebert qui est donc auteur, compositeur, interprète de chansons pour enfants. Il est connu d'un large public, mais en fait nous pas du tout, on t'avait juste contacté parce que ça nous intéressait de savoir comment ça se passait de vivre. Tu es médecin généraliste, tu as 3 enfants. Certes, tu es exposé médiatiquement et on l'a vu sur Instagram, sur TikTok, où tu comptes plus de 200 000 abonnés. Mais on pensait du coup que nous, ton témoignage en tant que tel sur cette vie de femme, mère, médecin, tiktokeuse, c'était déjà un super témoignage. En plus, le papa, c'est Guillaume Aldebert, c'est super.
Merci beaucoup pour cette présentation, Pauline, bonjour. C'est déjà pas mal résumé, moi je suis Laure, j'ai 39 ans maintenant, je suis maman de 3 enfants qui ont 10, 7 et 5 ans, 2 garçons et une petite fille. Et donc oui, je suis l'épouse de Guillaume Aldebert, comme tu le disais très bien. C'est vrai qu'après, dans ma pratique, alors héros ou pas héros, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai fait le choix d'être médecin généraliste. Je travaille dans une maison de santé que j'ai créée il y a environ 2 ans. C'est un travail pluridisciplinaire assez classique avec une prise en charge des enfants aussi en particulier, puisque moi j'ai un diplôme universitaire de santé de la mère et de l'enfant, donc c'est vrai que la maternité, la parentalité, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je travaillais auparavant en protection de l'enfance, en PMI. Voilà, donc après avoir eu ma petite dernière il y a 5 ans, j'avais peur de m'ennuyer, voilà, d'avoir une pratique. Alors l'ennui, c'est pas le mot, mais voilà, d'être dans une routine en fait. Ça m'a un petit peu angoissée quand j'ai créé mon cabinet médical. Je me disais, voilà, cette pièce, il bossait du lundi au vendredi. Alors j'entends très bien qu'il y a des personnes que ça pourrait rassurer. Moi, en fait, ça m'a angoissée un petit peu et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose en parallèle, quelque chose qui varie complètement. Alors, tu parles de mon mari, mais finalement, là où je pense que ça m'a un peu influencé, c'est que lui, il est dans la création en permanence. Et je pense que, ouais, je vois un petit peu par ce prisme-là comment il fonctionne, ce que ça lui apporte, les rencontres qu'il peut avoir. Et donc, j'ai fait un autre diplôme, un diplôme universitaire de journalisme à Paris. Et celui-ci m'a ouvert des portes à un stage à France Télé, puis voilà, des directs aux maternelles, à la maison des maternelles, donc sur France 5, puis France 2, et à l'écriture d'un livre, etc. Et c'est vrai que je me suis prise au jeu et aujourd'hui je l'ai vraiment intégré dans mon quotidien. C'est-à-dire que je suis présente sur les réseaux sociaux avec cette chaîne que j'ai créée qui s'appelle Le Cœur Net. Et puis ma pratique de médecin généraliste très classique. Donc finalement pour moi c'est vraiment juste une continuité de mon métier que je vais exercer différemment. Voilà.
D'accord. Et ça fait beaucoup de choses. Du coup, tu es médecin généraliste toujours. Tu consultes certains jours de la semaine, j'imagine, pas forcément tous les jours. Et le reste du temps, tu le consacres aux émissions, aux podcasts, à l'écriture de livres et à une partie plus publique, plus médiatique, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Il y a la création de contenu, en réalité. C'est ça, les termes. Parce qu'en fait, ça demande un travail un petit peu en continu à sa s'adapter aussi à l'actualité, aux événements, quoi, aux sorties de certains médicaments, une situation de harcèlement, par exemple. Moi, j'aime bien rebondir aussi sur toutes ces choses-là. Et ouais, voilà, c'est bien résumé, voilà. Je partage mon temps pro de cette façon. Et puis à côté, évidemment, il y a notre temps perso, familial, qui tourne autour et qui gravite, qui est là en permanence, en fait.
Et alors, comment concrètement vous vous organisez ? Parce que tu es très prise, tu viens de le dire, pour des raisons professionnelles. On s'imagine également que ton mari est très pris, avec en plus tous les deux, enfin lui, un emploi du temps assez atypique. Je veux dire, il ne travaille pas de 9h à 18h dans des bureaux et finalement toi non plus. Donc finalement, quand les enfants sortent de l'école, est-ce que vous êtes forcément disponible ou pas ? Le week-end, j'imagine pas non plus. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Vous vivez en région parisienne ou vous vivez en province ? Est-ce que ça a une importance ?
On vit en province. Pour le moment, on a fait ce choix-là. Alors moi, j'ai fait mes études à Paris et tous les deux, c'est une ville qu'on apprécie énormément, qu'on connaît bien, où on se rend régulièrement, notamment pour le travail. Nos enfants connaissent bien aussi. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix, quand on a fondé notre famille, de choisir cet univers de province avec une vie dans un village plutôt classique, avec un jardin. Voilà, et c'est vrai que nous, notre particularité, c'est qu'on n'a pas du tout d'emploi du temps fixe. Alors des fois, ça nous ferait un petit peu de bien, je l'avoue. Mais en même temps, comme je vous disais, on s'est construit de cette façon. Et le fait de pas avoir de choses très régulières, ça nous convient bien, en tout cas pour le moment. Ce rythme-là, on va surtout veiller à ce que ça convienne à nos enfants. Ça, c'est vraiment la priorité. Et oui, voilà. Donc, on n'a pas d'agenda. On a plutôt des agendas. Les agendas partagés que beaucoup connaissent. Le pro, le perso, celui des enfants. Alors, ce qui nous aide énormément et on a beaucoup de chance, c'est qu'on a une fille au père. La prochaine va arriver, une Italienne qui arrivera la semaine prochaine et on est bien contents parce que, alors tu posais la question des sorties d'école et c'est vrai que comme il nous arrive de prendre des trains ou alors pour Guillaume des tourbus, etc., on n'est pas tout le temps à la minute. Moi, avec mon travail de médecin, comme plein de médecins, forcément, si quelqu'un vient toquer à ma porte, même pour quelque chose qui peut paraître banal, une otite ou quoi que ce soit, ben forcément, tu acceptes ces petites urgences. Donc, tu arrives rarement à l'heure, en fait. En tout cas, moi, j'arrive pas. Et c'est vrai que c'est le système d'avoir une fille au père qui fait le tampon, ça, c'est vraiment, vraiment pratique et hyper appréciable au quotidien. Ça permet d'enlever le stress, en fait, et d'amener une certaine sérénité là où on pourrait avoir du stress. Donc en fait, elle fait en général, c'est un peu grosso modo le côté pratico-pratique, c'est qu'elle fait les sorties d'école, elle peut emmener l'un ou l'autre à une activité, et puis nous, on arrive un petit peu secondairement pour gérer l'activité d'un autre enfant, ou alors, en fait, on s'est mis d'accord que vers 6h30, 7h, on essaye, si possible, de manger tous ensemble à 19h, en fait. C'est le créneau qu'on essaye de maintenir. Moi, il y a deux soirs par semaine où je termine à 20h, 20h30, donc j'y arrive pas. Mais sinon, les enfants mangent en famille avec la fille au père à 19h, et si possible, j'essaye d'être là. Mon mari, quand il est en tournée, il part en tournée, en général, le jeudi soir, il revient le lundi, donc pareil, il y a des jours où il est pas là. Mais si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'un fonctionnement atypique. Moi, j'utilise ce terme parce que quelque part, il y a plein de familles recomposées, des parents solos, etc. Je pense vraiment que, en tout cas, pour notre façon de fonctionner, il n'y a pas de manque, puisque tout est assez cadré. Et ce qu'on fait surtout, c'est qu'on communique énormément avec nos enfants. Par exemple, à côté du frigo, on a mis des petits post-it, des petits agendas, des semainiers, pour tout vous dire, parce que chez nous, ça change à la semaine. Donc voilà, le semainier, c'est tous les dimanches soirs, on fait ensemble, on leur explique, mardi, il y aura un tel qui sera pas là, maman revient mercredi, etc. Cette activité, un tel t'emmène, c'est comme ça. Mais on y arrive. Pour le moment, je touche du bois, on y arrive.
Et eux, du coup, ils ont toujours connu ce mode de fonctionnement. Ça, il n'y a pas eu de changement par rapport à un moment où ça aurait pu être plus classique. Donc, ils acceptent bien ce fonctionnement. Souvent, les enfants, on voit, ils aiment bien... Ils sont quand même déjà assez grands, mais ils aiment bien parfois à l'école être comme tout le monde, pas se faire remarquer. Combien de fois on entend les enfants, mais moi j'aurais préféré que mes parents soient normaux ou être normal avec des choses plus classiques. Comment est-ce qu'ils le vivent tout ça, ces chamboulements toutes les semaines? Ils sont bien avec tout ça?
Ouais, ils sont à l'aise. Je pense vraiment qu'ils ont des enfances vraiment normal en réalité. Alors après, là où ils vivent un peu ce qui peut être atypique, encore je reviens sur ce terme, mais ça va être peut-être la vie en tournée, parce que c'est vrai qu'on a fait le choix quand ils étaient tout petits de les emmener assez facilement en tourbus. Moi pendant mes congés mater, je les ai baladés, quoi, grosso modo. J'ai accompagné Guillaume sur sa tournée, donc ça voulait dire dormir dans le bus, se réveiller dans telle ville, assister à des concerts avec donc un afflux de beaucoup de monde, et puis repartir dormir dans le bus, etc. Alors là, pour moi, c'était vraiment l'aventure. C'est vrai qu'ils ont vécu là-dedans, donc c'est devenu leur normalité, mais c'est surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont compris aussi. Ils ont compris que nos métiers, c'était aussi un réel travail. Enfin, je parle plutôt pour celui de Guillaume qui, quelquefois, est amené un peu de façon légère, voilà, fait que de la chanson, je ne sais quoi. Alors qu'en réalité, voilà, c'est un réel travail. Il y a les balances, l'écriture, etc. Il y a un de nos enfants qui est monté sur scène, donc il voit bien les enjeux, le stress que ça représente aussi pour quelqu'un qui débute, comme pour quelqu'un qui est sur scène depuis très longtemps. Donc, je pense que le secret, ça a été aussi de partager ça avec eux. Après, on les a aussi économisés dans le sens où on les a pas emmenés tout le temps. Voilà, on essaie de juguler. Et puis pour ma part, pour mon métier, alors je pense qu'ils sont encore trop jeunes pour être branchés réseaux sociaux, etc. Mais j'ai quand même l'aîné qui m'a demandé l'autre coup combien d'abonnés j'avais. Ça m'a fait sourire. Je lui dis mais tu sais ce que c'est, etc. Il me dit oui, mais mes copains m'ont parlé, etc. Mais je pense qu'ils mesurent pas trop. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, je pense que chaque chose en son temps. Moi, au contraire, c'est marrant parce que je fais de la prévention sur les écrans. Je bosse avec un organisme qui s'appelle Internet sans crainte avec le gouvernement et on veille à ce que les parents aient une bonne communication pour pouvoir justement communiquer autour des écrans avec leurs petits comme avec leurs ados, tout ce que ça représente. Alors c'est drôle parce que moi je suis quand même en plein dedans. Alors du coup, on a quand même amené des petites règles par rapport aux écrans et tout ça, voilà. Donc il n'y a pas trop d'écran, il n'y a pas d'écran à table typiquement. On limite vraiment, on verrouille pour pas qu'ils aient l'impression que tout ça envahisse l'univers familial.
Et du coup, les copains connaissent les chansons de ton mari. Toi, des parents, j'imagine, te suivent sur TikTok en tant qu'influenceuse aussi. Donc, vous avez tous les deux une certaine notoriété. Ça, c'est bien vécu par les enfants. Leurs copains ne sont pas envieux. C'est plutôt cool. Comment ça va de ce côté-là?
On a vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de bienveillance. C'est vrai qu'on... Enfin voilà, les parents sont assez rigolos parce que des fois en sortie d'école, on me dit « Ah, t'as traité tel sujet, etc. » La vasectomie, on en parlait l'autre coup, et c'est rigolo. Et de même pour Guillaume qui a fait quelques concerts dans la région, et ben il y a des parents d'élèves qui se déplacent avec leurs enfants, qui viennent le voir en concert, et c'est vrai que c'est touchant. C'est pas voilà, c'est une sorte de soutien aussi, et il y a vraiment de la bienveillance. Je pense que c'est le mot qu'on retient parce que il y a un peu de curiosité, mais c'est toujours amené avec beaucoup de sympathie. Et je pense que pour le coup, l'école est très bienveillante aussi. Il n'y a pas du tout de différence. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Du coup, ce qui fait que ça se passe très simplement.
Et donc toi, tu es très prise par tes occupations professionnelles. Hein. Tu fais donc de la télé, de podcasts, des livres. Tu consultes donc deux fois par semaine jusqu'à 20h, 20h30. La question que je te pose, que je poserai à n'importe quelle maman qui travaille et n'importe quel papa qui travaille, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent à des mamans. Est-ce que tu as la sensation de voir suffisamment tes enfants? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis « là, j'y passe pas assez de temps ». Dans ce cas-là, tu changes des choses. Est-ce que tu as des sentiments de culpabilité parfois ou pas?
Non, c'est une question très intéressante, surtout dans le monde médical, parce qu'on se retrouve des fois à soigner... d'autres enfants alors que les nôtres sont pas très bien ou sont voilà ont chopé un petit truc et puis du coup on les a casés chez la nounou pour gérer pour pouvoir assurer notre journée de boulot. Il y a ces moments là de culpabilité. Après je pense qu'on a quand même on a la chance d'avoir cette liberté aussi. On fait tout ça par choix, donc quelque part je pense qu'on le fait pour des raisons qui sont assez perso, et je dirais pas égoïste, mais on a aussi vachement plaisir, on a la chance, je pense que Guillaume comme moi, d'aimer à fond notre boulot, quoi. Et on le fait avec plaisir. Et ça, je me dis, mais heureusement, c'est trop, on se sent vraiment chanceux. Et donc, du coup, de la culpabilité, non, je pense que ce qui, moi, m'aide, c'est de faire comprendre aussi à mes enfants qu'il y a quand même toujours ce sens un peu du travail. C'est comme ça que je fonctionne parce que voilà, les études étaient dures. J'ai trouvé ça difficile personnellement. Et puis, pareil, maintenant, quelque part, je me suis mise dans un autre projet, donc qui est donc un prolongement de mon métier de médecin, mais ce projet, voilà, du partage de contenu, de faire évoluer donc le cœur net. Il y a cette idée un petit peu de défi personnel aussi quelque part, et j'aime bien cette idée de voilà de transmettre l'idée que on peut y arriver. Alors, il y a beaucoup de facteurs chance, évidemment, mais il y a aussi le fait d'être assidu, le fait d'y croire. Il y a plein de valeurs, je pense, qu'on peut transmettre en fonctionnant comme ça. Voilà. Donc, pour le moment, je pense que ça va plutôt bien. En tout cas, on en parle beaucoup. On mesure et puis, évidemment, on aimerait bien les voir plus. Et je pense qu'après, il y a le juste milieu. Il est hyper personnel. En tout cas, moi, personnellement, ça me conviendrait pas d'être H24 avec mes enfants à la fin de mes vacances. Je suis toujours exténuée parce qu'ils m'ont achevé, même si je les adore. Donc, je pense que ma stratégie, en tout cas, elle va être surtout de compenser, on peut dire ce mot-là, mais quand il y a des absences, vraiment déjà d'être au fait, d'être toujours joignable. On a mis, c'est des petites choses, mais on a mis un équivalent, d'OK Google. Les enfants peuvent nous appeler rien qu'en appuyant sur une touche. Pour la petite, c'est facile. Hop, elle nous passe un petit coup de fil. Elle nous laisse même un petit message quand elle veut me poser une petite question. J'aime bien cette idée d'être joignable, qu'ils sachent qu'on peut être là rapidement si on le veut. Et après, ça va être des moments privilégiés avec chacun. Là, par contre, c'est plus difficile, je trouve, quand on a trois enfants. C'est de réussir à leur accorder individuellement des moments vraiment pour eux, où on les questionne sur leur goût, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins sur le moment, ce qui est peut-être difficile. Et je trouve que, surtout que des fois, comme le conjoint mon mari, pour le coup, n'est pas là, je pense que c'est réciproque quand je suis pas là. Quand on est seul avec les trois, forcément, on va faire une activité commune et il y a l'effet un peu de groupe qui est plus difficile, je trouve.
Ouais, c'est sûr que... Et puis, il faut l'énergie pour, en plus, quand on rêve soi-même d'aller se coucher.
Oui, c'est vrai. Surtout quand on a des enfants qui parlent beaucoup, parce qu'on se dit, oh là là, je vais l'engager sur un sujet, je suis bon pour
rester. J'en ai pour 25 minutes, il y en a deux autres derrière. C'est clair, ouais. Ça t'est déjà arrivé de renoncer à un projet, un rendez-vous, parce que tu sentais que là, ça faisait trop pour eux, que ça faisait trop longtemps que l'un ou l'autre, vous les aviez pas vus, et de te dire, là, tant pis, ce truc-là, je dis non, parce que là, je sens qu'à la maison, c'est un peu plus, on est moins là, c'est un peu plus branlant, et il faut qu'au moins l'un de nous deux assure, ou quoi.
Oui, bien sûr. Tout, c'est une balance, en fait. Alors, ça va être plus compliqué pour Guillaume, parce que pour le coup, il engage... c'est des systèmes donc de spectacle, les gens prennent leur place, etc. Tu peux pas décaler comme ça. Il a décalé, quand même. Quand j'ai accouché, j'avais une menace d'accouchement prématuré, etc. Il y a une date qu'il a fait sauter, une année. Mais pour le quotidien, moi il m'arrive régulièrement d'annuler, ou en tout cas de pas accepter des choses. Mais après, comme je disais, c'est une question de balance, de ressenti pour amener un équilibre, en fait.
T'as pas l'impression que c'est plus toi la variable d'ajustement parce que tes rendez-vous sont moins engageants que les siens? T'as pas de sentiment d'inéquité par rapport à ça? Ou alors finalement lui aussi le fait quand il le faut, pour ton accouchement bien sûr, mais...
ouais, non, mais c'est vrai que l'accouchement c'était quand même... c'était une période de stress intense.
C'était une vraie bonne raison. Oui, non, mais ça.
Après, il a mis énormément de choses en place. Ce qui est bien, c'est qu'avec son manager, déjà c'est un ami, donc on communique énormément. Et c'est vrai qu'on a mis un agenda un petit peu précis avec quand il y a plusieurs week-ends de suite, il y a forcément un week-end de pause, etc. Pour privilégier cet équilibre familial. Maintenant, je pense que c'est une certaine petite inégalité. Je pense que j'ajuste un petit peu plus, mais c'est par la force des choses aussi, quoi. Je veux dire, on a pas les mêmes jobs. Je pense qu'il y a plein de couples comme ça, en fait, où il y a des boulots, je sais pas, un instit qui a des horaires à l'école, il peut difficilement se libérer autrement, etc. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, faut savoir que Guillaume, quand il est pas en tournée, il est aussi en écriture, donc il a énormément de temps dans ces périodes-là, à la maison. Donc, quelque part, il va compenser comme ça, mais ça va pas être sur du quotidien, ça va être plutôt sur des mois où il est plus présent et d'autres mois où il va être plus absent.
Quel équilibre à trouver à chaque fois, hein, quand même.
Je crois que c'est ça, là. Si on devait être diplômé, ce serait ça. C'est de la réadaptation en permanence. Trouver, voilà, trouver les bonnes personnes, voilà, de confiance qui peuvent nous aider à faire soupape. Dans notre, là où on habite, dans notre coin, on va dire, ça va être des personnes extérieures. On a trouvé des personnes hyper aidantes, nos voisins qui sont des amis, la nounou qui avait les enfants. Il y a une personne du village aussi qui nous aide énormément. Et donc, cette fille au père, là, qui va arriver. Youpi!
Vous trouvez comment à chaque fois si vous avez des filles au pair?
Ouais, nous on utilise un organisme qui s'appelle Au Pair World et en fait on voit des annonces en fait et de personnes qui vont chercher. Ça peut être des modes de garde de 1, 2 ou 3 enfants. Elles peuvent chercher aussi dans une région bien précise. Elles veulent en général apprendre le français. Bon, ça fait partie du contrat, etc. Mais nous aussi, on va déposer notre profil de famille en quelque sorte. Et on va leur dire voilà ce qu'on peut leur offrir dans notre région, comment ça se passe, s'il y a des activités, si elles peuvent par exemple aller faire du ski facilement, etc., si elles peuvent aller à la fac. Et puis ensuite on s'appelle, elles candidatent, hein, grosso modo. Donc, mais c'est vrai que c'est pour en parler avec d'autres personnes qui utilisent ce système là, c'est toujours des périodes quand même un petit peu stressantes, parce que quelque part on joue ce moment où on va accueillir une personne chez nous. On se dit pourvu que ça colle, quoi, que ça matche, qu'on soit hyper hyper à l'aise et puis qu'on puisse l'accueillir quelque part un peu, que c'est, moi je dis toujours, c'est un peu les grandes sœurs de nos enfants, quoi. C'est souvent des très jeunes, elles ont 18-20 ans et elles vont à la fac en parallèle et puis en journée, et puis après elles ont du temps pour elles, pour visiter, pour être tranquilles, et puis le soir elles gèrent nos enfants, c'est un peu ça le deal, puis un petit peu les week-ends, donc ça nous permet pour nous d'avoir un petit temps aussi pour faire du sport en général ou des choses qu'on a envie de faire seul.
C'est ce que j'allais te demander, parce que donc tu as tes occupations professionnelles, ta vie de maman, du temps pour toi, t'en trouves ou pas?
Peu ou pas assez. Quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'ai réussi à m'octroyer un petit peu de temps pour moi. Je prenais des cours de chant. Tiens. C'était vraiment juste pour moi, pour me faire plaisir. J'ai aussi pris des cours de piano, mais ça a duré le temps de la grossesse et puis après, j'ai complètement laissé tomber. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que je travaille un petit peu en développement personnel. Mais c'est bien parce que je mets déjà des petites choses en place. C'est pas que je me force, mais voilà, on sait tous finalement les choses qui nous font du bien, qui nous font moins du bien. Et voilà, moi typiquement, par exemple, je me dis maintenant je lâche les séries télé, ça me convient moins, il faut que je lise. Donc là, depuis la rentrée, je me dis le soir je lis. C'est pas très intéressant, mais c'est pour dire que voilà, j'essaye déjà de prendre du temps pour moi, pour des petites choses basiques qui me renforcent, qui me ressourcent, qui me font du bien.
Et le sport?
Le sport pour moi je pense que Guillaume dira pareil, mais c'est vraiment un exutoire et ça fait presque partie de ma façon de travailler. je pourrais dire ça comme ça. Parce que je pense dans ma pratique au cabinet en libéral, alors certes, je fais pas d'urgence, j'ai pas, je pense, la difficulté de certains à l'hôpital, mais quand même, on engrange quand même des situations compliquées. Moi, maintenant, je fais aussi ce qu'on appelle de l'EMDR. Je sais pas si tu connais, c'est des techniques de mouvement oculaire pour la prise en charge des traumatismes. Voilà, c'est plutôt côté psy, tu vois. Et en hypnose EMDR, donc on a des fois des situations qui sont quand même pesantes, etc. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je fais de la course à pied et puis du crossfit et ça me vide la tête, ça me vide bien la tête.
Et ça, t'as le temps de le faire quand, le week-end?
Et le mardi soir en fin de soirée et quand les enfants dorment. Et puis non, j'essaye quand même de faire deux sorties en semaine, mais par un moment j'y allais, je mettais le réveil avant de réveiller les enfants. Et puis maintenant j'ai fait le choix, puis j'ai cette chance là en libéral, c'est que je les dépose à l'école. Mais je suis déjà en tenue. Les autres parents me font des clins d'œil, c'est assez rigolo. Les autres sont pareils, hein. Il y en a pas mal qui aiment bien bouger. Voilà, je les dépose. Je suis déjà en basket et puis je pars courir 3 quarts d'heure et puis j'enchaîne avec mon boulot après. Mais encore une fois, je m'estime chanceuse de pouvoir le faire. Ça, c'est chouette.
Tu frôles l'hyperactivité, non? Je sais pas.
Ouais. L'hyperactivité, c'est chouette, mais je pense que souvent, c'est un exutoire aussi quand on a un petit peu la peur du vide ou certaines angoisses, finalement, de faire plein de choses, et ben ça rassure. Moi, je crois que je compense bien comme ça. Effectivement, je dois être hyperactive, mais c'est pas négatif. Quelque part, c'est totalement assumé. Je me dis, bon, bah voilà. Il y a un creux, donc je peux appeler un tel, rencontrer machin, écrire sur tel sujet. Tout est toujours archi complet.
Et le temps, justement, t'allais dire, j'appelais un tel, le temps pour voir des amis, vous arrivez à le trouver aussi? Ou c'est très mélangé avec la profession
On essaye déjà de privilégier notre cocon, effectivement. Mais quand on peut, on essaye de voir nos amis. On part en vacances avec nos amis aussi souvent. Une de mes meilleures amies, on a convenu des rendez-vous. Ça va vous paraître bizarre, mais il n'y a pas trop de place pour la spontanéité. Alors, on sait qu'au mois de juillet, on va se voir. Au mois de décembre, on va se voir. J'ai mes potes de lycée. Pareil, on les retrouve très régulièrement, mais c'est des dates qu'on fixe 6 mois à l'avance. Mais comme pas mal de gens, en fait, ben, on a un peu du mal avec la spontanéité. Le côté truc de dernière minute, ben, on peut difficilement, en fait. Franchement, ça nous va. Nos amis, ils nous comprennent, en fait. Je crois que c'est rigolo parce qu'ils nous suivent souvent. Et ils ont ce regard hyper sympa ou avec ce jugement mais de l'ami quoi qui va dire bon ben là ça va pas du tout ce que t'as fait, faudrait que tu fasses comme ci ou comme ça. J'adore.
Donc t'avais l'air fatiguée l'autre jour.
Ouais. Faut que tu fasses quelque chose.
ouais mais pas d'autre choix effectivement que de s'organiser. Le coup de fil du vendredi, tiens vous faites quoi demain, on se voit, c'est pas trop possible quoi.
Pas trop là un petit peu en ce moment-ci parce que mon mari est là donc jusqu'à mai, donc il a pas de tournée encore. Mais c'est vrai, non, pas trop. Alors j'entends totalement que c'est le genre de fonctionnement qui angoisserait plein de personnes. Hein. Je pense que la routine, ça a du bon pour plein de gens et les enfants en particulier, hein, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont besoin d'un cadre avec de la sécurité dans le cadre, hein, comme on dit. Mais nous, voilà, on fonctionne comme ça et puis du coup on communique énormément sur cette histoire de cadre. Ben voilà, ben certes on se sera pas vu à ce moment-là, ben du coup le lendemain on fera comme si, et puis les moments qu'on passe, voilà, on adore les jeux de société, je pense qu'on est très on connaît bien nos enfants. Et ils nous connaissent bien, ils nous chambrent bien aussi maintenant, là, ça y est, ils ont beau être jeunes, ils nous cernent pas mal, je pense. Et ouais, voilà, donc on a des moments chouettes, quoi, autour du sport, notamment, là, nous, on aime bien les sports outdoor, du coup, on a initié nos grands, même la petite, là, la Via Ferrata, j'en ai fait un post, mais c'était rigolo de partager ça. C'est ce côté un peu transmission de passion et de voir qu'ils apprécient aussi ce sport, cette activité physique. Et qu'ils en redemandent.
La Via Ferrata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du trail en montagne, c'est ça ?
Pas trop, non. La Via Ferrata, ça ressemble plutôt à de l'escalade, sauf qu'en fait, c'est plus simple dans le sens où les prises, ce sont des échelles. Donc, on a des prises toutes faites avec une ligne de vie et on va mettre un mousqueton à chaque fois pour déplacer notre ligne de vie. Donc, c'est totalement sécure, hein. Mais faut connaître les règles. Mais par contre, il y a ce côté vertical, quoi. On est sur une falaise en hauteur. Alors, nous, on adore. Mais c'est vrai que, voilà, de pouvoir vivre ces moments là avec le côté émotion que ça implique, j'imagine que comme ça on crée du souvenir aussi, donc on est hors routine quoi, et j'aime bien cette idée là d'être dans des trucs complètement atypiques. Voilà, l'autre coup j'étais avec ma fille, on s'est fait un pique-nique au milieu du salon. Voilà, alors je me dis voilà, j'étais pas là pendant 2 jours mais on aura eu notre pique-nique avec notre couverture dans le salon. Voilà, j'aime bien ce fonctionnement.
Les enfants font jamais de reproches sur « tiens, ça fait deux jours que je t'avais pas vu, papa non plus était pas là ». Ils savent que vous êtes comme ça et tout est ok.
Ouais, franchement, ouais. Ouais, puis on leur explique aussi qu'il y a plein d'autres métiers. Franchement, nous, comme je te disais, on kiffe nos métiers, quoi. On le fait aussi par choix, parce qu'on est hyper contents. J'imagine qu'il y a... Enfin, moi là, j'ai des patients qui sont militaires, j'ai des patients qui partent sur des missions qui sont beaucoup plus longues. Alors peut-être qu'ils sont passionnés aussi par leur boulot et je le souhaite, mais c'est vrai que je vois ça vraiment comme encore une fois un truc qu'on fait par choix, et puis je pense qu'ils nous voient quand même relativement accomplis là-dedans, donc je pense que ça renvoie une énergie qui est plutôt sympa.
C'est ils vous voient épanouis, heureux dans ce que vous faites, donc ça passe beaucoup mieux que si effectivement, tous les soirs, il vous voyait, mais triste, stressé. Du stress, vous devez en avoir, hein, cela dit.
Ouais, on a du stress, mais c'est vrai qu'on essaye de pas le véhiculer. Après, on dit que les enfants, c'est des éponges, mais c'est vrai que je pense que cette toile de fond où on est un peu enjoué, on est même enjoué, voilà, le lundi matin, c'est cool, on va repartir sur d'autres trucs, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai. Quelque part, eux, voilà, ils ont pas l'angoisse du dimanche soir, finalement. Ben, ouais, le lundi, hop, on repart à l'école, ils sont contents aussi, ouais.
On a parlé du temps pour les enfants, du temps pour toi, du sport, et le temps pour votre couple en soi, pour vous voir que tous les deux, vous arrivez à en trouver aussi?
Alors, tu vois, c'est dans l'agenda.
C'est planifié pour dans 3 semaines.
Ouais, mais tu rigoles, mais évidemment, je pense que la clé pour qu'un couple fonctionne, c'est qu'il ait du temps pour se retrouver, pour communiquer. Après, sans forcément sortir ou faire un truc exceptionnel. Nous, avec cette arrivée de fille au père, on attend ce moment-là, là, pour tout te dire, puisque dans notre semaine, on a programmé un soir par semaine où elle gardait nos enfants, gardera nos enfants toute la soirée, dans l'idée qu'on puisse sortir, voir justement nos amis, ou alors, tu vois, on aime bien faire un peu d'escalade. D'escalade, tu vois, c'est difficile quand t'as 3 autres enfants qui tournent autour, que tu dois assurer l'autre. Mais je pense que effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose qui est vital. C'est que justement, il y a l'arrivée des enfants, c'est tellement difficile, ça bouge les lignes, nos priorités. Et je pense qu'il faut pas mettre de priorité exactement ça d'abord, ça après, mais voilà, essayer de faire jouer les choses pour que tout avance à son rythme. La place du couple, elle est importante, surtout avec 3 enfants. Je pense que c'est surtout communiquer la clé et se dire nos besoins, en fait. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans les cours que j'ai pu avoir. Si on devait communiquer et puis avancer dans notre couple, ça va être vraiment identifier les besoins de l'autre pour que ça avance bien, quoi.
Alors je gratte, il y a rien qui ne va pas, c'est presque énorme. Tant de bonheur, on n'est pas habitué.
Non. Il y a certainement non, mais je peux, dans les choses qui sont difficiles, moi c'est vrai que j'aimerais bien des fois un peu plus de légèreté sur ce fameux agenda. Alors je te dis que pour le moment ça va parce qu'on est qu'en septembre, donc tu vois, on a encore l'énergie de l'été, on est rechargé à bloc. J'aime bien les mois de septembre d'ailleurs, moi, parce que je trouve que c'est vraiment, on a l'impression que tout va se jouer pour l'année, ça va être chouette. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un peu plus de spontanéité. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir de temps en temps me dire j'ai 1 heure devant moi pour appeler mes parents ou ma meilleure amie ou un tel, et c'est vrai que ça se fait difficilement, et j'aimerais bien m'améliorer là-dessus. Après, pour ça, je vais peut-être mon cabinet médical, là, je vais peut-être exercer un tout petit peu moins, essayer de travailler 3 ou 4 jours par semaine si mes projets journalistiques prennent le dessus. Et s'ils prennent le dessus, j'aimerais surtout être davantage peut-être aidée par d'autres journalistes ou par des monteurs, etc. Donc c'est vrai que finalement, je pense que tout s'organise. Pour le moment, il n'y a pas encore assez de place à cette spontanéité à mon coup.
Qui après est difficile à trouver dans toutes les vies de famille, même moins atypiques. Enfin, c'est souvent d'ailleurs le passage qui est compliqué, c'est de se mettre à devoir prévoir parce que il faut en même temps appeler une babysitter, réserver quelque chose. Et effectivement, pour n'importe quelle famille, je pense que ce côté de devoir s'organiser, et de toute manière, on passe tous par là. Hein. C'est terrible.
Et puis le choix des activités. Au secours. Mais laquelle il va choisir, mais pourvu que ça colle avec celle de son grand frère, etc.
Mais bien sûr, l'organisation, là, juin, tous jouent en juin, généralement, avec les activités. Et puis, tu t'as pas encore, parfois, moi, j'ai des enfants, une fille au collège, t'as pas encore les emplois du temps, tu sais, tu dis, mais est-ce que le théâtre va coller avec son horaire de sortie? Bien sûr. C'est un peu ce qu'on perd quand on devient parent, c'est la spontanéité, ça, c'est sûr. Et tu penses que cette vie-là et cet équilibre-là que vous trouvez, même si on sait que tout équilibre est difficile à maintenir et précaire, hein, est-ce que tu penses que ça a été plus facile de le trouver parce que vous vous êtes un peu écarté d'une vie parisienne stressante, puisque vous travaillez tous les deux beaucoup à Paris, hein, je dis ça pour ça. Est-ce que vous avez trouvé cette plus de paix, de tranquillité, finalement vivre en province vous a aidé un peu à ralentir. Est-ce que tu crois que ça aurait été possible et peut-être plus pratique parce que plus près de vos obligations professionnelles si vous étiez resté à Paris?
C'est une bonne question. C'est vrai que la vie à Paris, on en parle. On se questionne aussi parce que, bon voilà, des fois il y a des projets qui s'y font, on sent que c'est plus facile par rapport aux médias, etc. Notamment, Guillaume, il a quand même pas mal de collègues aussi là-bas. Après, pour tout dire, le projet initial, c'était déjà, en arrivant ici, c'était d'être dans cet univers qui nous convient bien. Les enfants sont arrivés, alors trop de chance parce que c'est vrai qu'on, voilà, on avait cette maison, on l'a remplie. Et finalement, nos activités pro sont arrivées après. Et même pour ma part, quand j'ai rencontré Guillaume, il marchait bien, voilà, il vivait de son métier. Mais son métier a vraiment pris de l'ampleur après la naissance des enfants. Donc quelque part, entre son métier qui s'est développé énormément et le mien que j'ai ajouté par choix par la suite, on s'attendait pas à vivre cette vie-là. Donc c'est une adaptation d'aujourd'hui, et puis c'est vrai que maintenant que les enfants sont un peu plus grands, on se dit, ben est-ce que une adolescence à Paris, ça pourrait être jouable? En fait, j'ai pas vraiment les réponses parce que j'ai pas encore vécu à Paris avec des enfants. Je pense que dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux fonctionnements. Ici à Besançon, Guillaume travaille avec voilà ses collègues de travail et qui sont aussi sur scène avec lui, qui sont sur place. Donc forcément, dans sa qualité de travail, il y a le fait aussi d'aller pouvoir travailler avec ses potes, quoi, ses collègues qui ont leur studio chez eux, etc. Donc c'est plus simple. Il a le système du tourbus donc qui part. Donc il peut dormir dans le bus le jeudi soir et arriver sur le lieu de concert, sachant que s'il était à Paris, il ferait tout en train. Ouais, en fait, c'est des choses à...
On dort bien dans un bus comme ça?
Ah ouais, on dort bien. Moi, je suis persuadée qu'il y a un truc hyper cocon, mais je suis hyper fan, moi. Toujours des anecdotes, c'est rigolo parce que tu croises des musiciens, il va te dire « Ah, un tel était là, nanana ». Et moi, je trouve qu'on dort... Il y a un truc rappel à la vie fœtale, tu sais, parce que t'es... Il n'y a pas trop de place, t'es un peu en cocon comme ça, et les enfants dorment toujours bien. Petit, on avait les lits parapluies, franchement, ils ont toujours trop bien dormi, alors qu'il y avait 20 personnes dans le bus, c'était assez fou.
Mais tout le monde dort allongé.
Oui.
T'es pas genre comme, tu sais, dans un avion où tu te dis...
Non, c'est pas les sièges, c'est vraiment des petits lits, un peu comme des lits à étage, tu vois, donc avec une allée centrale. Mais ouais, la vie à Paris, je pense qu'il y a plein d'avantages. Après, faut voir un petit peu où tout ça va nous mener. Pour le moment, on fonctionne comme ça avec énormément de trains, TGV. Moi, j'aime moins un petit peu être tout le temps en vadrouille. J'avoue, je préférerais voilà, aussi un petit peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Mais pour le moment, voilà, je travaille dans le train, ça me convient encore pas mal. On va voir combien de temps ça va durer. Peut-être que je vais changer dans les mois ou années qui viennent si ça prend le dessus.
Très bien. Et alors, si tu avais un conseil à donner à des familles comme ça, des parents qui nous écoutent et qui ont des vies un peu atypiques. Alors, c'est pas forcément... vous avez ce côté, en plus de la notoriété, de métier exposé et médiatique, mais tu peux avoir également des vies assez atypiques avec... je sais pas, un mari dans la police, une maman urgentiste, des choses comme ça qui font que l'emploi du temps collé à un emploi du temps très routinier, qui est l'emploi du temps d'un enfant, hein, à l'école, il n'y a pas plus routinier. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour avoir une vie de famille la plus équilibrée possible, avec du temps pour tout le monde, pour soi, pour les enfants, pour son conjoint?
Tu veux dire pour l'épanouissement des parents essentiellement ou pour tout le monde?
L'épanouissement des parents qui finalement, comme tu le disais, des parents épanouis quand même permettent aussi, théoriquement en tout cas, sont un bon pas vers l'épanouissement des enfants. Mais déjà, ouais, l'épanouissement des parents.
Je pense qu'il faut, et c'est souvent pour ça que je pense qu'il y a des crises de la trentaine ou de la quarantaine, on dit. Mais je parlais des besoins dans le couple, tu vois. Mais je pense que c'est déjà bien d'essayer de se connaître soi-même. Qu'est-ce qui nous fait du bien personnellement? Des fois, je dis à mes patients, voilà, qui sont anxieux ou déprimés, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous manque et qui d'habitude vous fait du bien? Et des fois, ça va être de s'acheter des magazines, de se faire les ongles, de lire un bouquin, je disais tout à l'heure. Ou... En fait, ça peut être des choses du quotidien, mais en fait, des fois, il faut presque se les lister, je trouve, pour se dire, mais en fait, ce qui me ressource, c'est ça, et d'appeler ma pote, etc., et pas le mettre en bout de liste, parce qu'en fait, ça va être ces petites choses-là du quotidien qui va faire qu'on va... On va se sentir ressourcé et garder ces choses-là.
Donc finalement, ouais, pas se faire passer en dernier, un parent, une maman, peut-être à se sacrifier, à se dire, je vais d'abord, faire passer mon enfant avant, etc. Donc justement, peut-être ne pas s'oublier, c'est très parent épuisé ça.
Oui, tout à fait. Mais c'est très juste. Tu sais, on donne l'image souvent de ce fameux masque à oxygène dans l'avion. Tu sais, quand il tombe, il faut le mettre d'abord aux parents pour qu'ensuite ils puissent tranquillement le mettre à ses enfants. Et ben, c'est exactement ça. C'est se dire, qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je vais avoir la tête en dehors de l'eau, me sentir à peu près bien. Alors pour ma part, ça va être faire du sport. Et comme je te le disais, j'ai pas là-dessus du tout, c'est que maintenant c'est venu dans ma routine. Alors je dis dans ma routine de travail, mais c'est à peu près pareil. C'est voilà, ça fait partie de ces trucs, ces moments que j'ai pour moi et que je fais passer presque en priorité avant des amis, avant d'autres choses et parce que ça me fait du bien perso. Et une fois que ça s'est fait, je vais prioriser avec d'autres choses. Alors évidemment, comme je disais, dans un idéal absolu, moi je trouve que c'est cool quand on arrive à bien garder le lien avec nos enfants en gardant ces temps de communication. Ça peut être au moment du coucher, tu disais, mais je pense que ça a pas besoin d'être des moments hyper longs, quoi. Mais juste ce moment où l'enfant, il sait que, voilà, il peut te dire les choses, tu peux être là pour aborder sans jugement certains questionnements qu'il pourrait avoir. Et je pense que c'est pas évident de réussir à montrer ça, mais on peut y arriver, simplement.
Très bien, écoute, merci beaucoup Laure pour ce témoignage qui inspirera les parents et qui rassurera aussi.
J'espère qu'on va rassurer les parents. Et souvent, les gens ont peur, en fait, ont peur de fonctionner un peu différemment parce que la plupart des gens ont un emploi du temps fixe, peut-être bougent pas tant que ça, etc. Mais faut pas avoir peur, en fait. C'est des peurs qu'on peut projeter et en fait non, faut tenter des choses et puis si ça nous convient pas, au pire on revient en arrière et on essaye de fonctionner différemment. Je pense qu'on est toujours libre de revoir les lignes.
Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ou pas?
Si un autre petit message que j'aimerais passer, c'est que je pense qu'il faut pas négliger l'importance du rire et de se marrer, même si on est stressé, même si c'est de l'autodérision, etc. Et encore une fois, même si c'est pas long, je sais que chez mes enfants plus petits, par exemple, quand ils étaient vraiment tout jeunes, vers 1 an, 2 ans, je me disais toujours, je les chatouille tous les jours, je leur fais un petit truc pour qu'ils aient ce moment de rigolade avec moi. Et maintenant qu'ils sont plus grands, c'est différent. Mais je pense que ça fait partie aussi des petites choses que j'essaye d'avoir dans un coin de ma tête.
Ouais, de se dire on peut bien rigoler avec ses enfants, avoir un bon moment et pour soi et pour eux, qui sort de la to-do list, de va prendre ton bain, va te sécher, viens dîner et avoir ces moments-là un petit peu tous les jours.
Ouais, c'est ça, un peu de légèreté. C'est un peu bizarre, ça fait un peu to-do list, on check, on coche le moment drôle, le moment pour soi, le truc. Mais en fait, je pense que si on arrive à l'intégrer dans des petites choses qui deviennent au final spontanées, ça finit par se faire. Mais voilà, aussi au moment du bain, tu prends la mousse et tu te fais une barbe et que ça les fait marrer, c'est cool, tu te sens bien.
C'est clair, être un peu moins sérieux nous aussi, quoi, quelque part.
Ouais, je pense que ça fait du bien, ouais.
Eh ben écoute, merci beaucoup Laure pour ce témoignage et donc on a hâte de te retrouver sur ta chaîne, sur TikTok et sur Instagram, sur le cœur net, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Ça s'appelle lecoeurnet.info sur Instagram et lecoeurnet sur TikTok.
Avec plein de conseils, j'en ai regardé, notamment t'en fais pas mal autour de la sexualité, des ados, etc. Moi, c'est des sujets qui intéressent aussi et où il y a pas mal d'infos intéressantes à tirer quand on est parent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir, Laure.
À bientôt, merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre histoire et passer dans notre podcast, contactez-nous sur nos comptes Instagram ou Facebook. D'ici là, n'hésitez pas à partager sans modération ce podcast et à mettre 5 étoiles. Ça nous aidera beaucoup à continuer et en plus, ça nous fait très plaisir.